Radio Okapi.
Le journal, c'est avec grâce à Mzati Masanzi.
À l'ouverture de ce journal, nous vous parlons de la reprise timide du trafic ce dimanche sur l'axe routier Pitso-Pimbo à Ituri après perturbation la journée d'hier. En cause, les miliciens de la CODECO ont placé des barricades pour se venger contre la mort des trois des leurs. Le gouvernement congolais dit oui pour le contrôle du mouvement migratoire pour prévenir la criminalité et toute autre activité subversive. C'est le président de la République qui l'a évoqué lors du dernier conseil des ministres ici à Kinshasa. Notre invitée est Agnès Debiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu. Elle nous parle de la formation en faveur des acteurs culturels organisée par son institution afin de favoriser l'accès aux livres et à la lecture au Sud Kivu. Bonjour. Le trafic a repris timidement ce dimanche matin sur la route nationale numéro 27, axe Pitso-Pimbo. C'est après avoir été perturbé toute la journée de samedi à la suite des barricades érigées par une centaine d'éléments de la milice CODECO. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants se vengeaient contre la tuerie le vendredi de trois d'entre leurs jeunes par des miliciens Zaïre à Gbalana, village de la chefferie de Baema Nord dans les territoires des Djougou. Le point de la situation avec vous, Jacques-Yves Molima.
Des centaines d'assaillants armés en provenance de leur bastion d'Embaou sont descendus sur la route nationale numéro 27, précisément au village de Picho Matete, en allant vers Pimbo. Ces hommes armés ont barricadé la route empêchant le passage à tout véhicule de transport en commun. Selon des sources sécuritaires, très effrayés, ces miliciens tiraient des coups de feu pour créer la psychose avant de prendre en otage 8 personnes qui étaient sur 3 motos. Ces dernières provenaient de Mungwalu en transportant un cadavre qu'elles amenaient à Mahagi, indique la même source. Ils ont été ramenés dans la forêt des Choro, abandonnant le cadavre dans la brousse. Ce matin de dimanche, des transporteurs affirmaient que les assaillants de la CODECO ont libéré la route grâce à l'intervention de certains chefs coutumiers dans la région.
Merci à vous, Jacques-Yves Molima Aouta. Mais aux dernières nouvelles, nous apprenons que les 8 personnes prises en otage ont été libérées quelques temps après grâce à l'intervention du chef de secteur de Walendu Tati. Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, au moins 6 villages du secteur de Bapéré sont vidés de leurs habitants depuis mardi à cause de la présence des rebelles des ADF dans ces entités situées à une centaine de kilomètres de la ville de Butembo. Le chef de secteur de Bapéré, Maker Sivikunulwa, qui alerte, ne donne cependant pas le nombre de personnes déplacées à la suite des exactions commises par ces rebelles contre les civils. Il demande à l'armée de lancer des opérations militaires de grande envergure contre ces ADF qui, selon lui, ont investi plusieurs villages. Maker Sivikunulwa le dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
Il y a, confirme le déplacement massif de la population dans la partie nord-ouest du secteur de Bapéré, notamment tous les villages qui fait frontière avec le groupement Bakaeku, Cheferi, Babila, Babombi, territoire de Mambasa, province de l'Ituri, se sont vidés donc dans tous les villages de Makumo, Hoho, Hihé, Dubaï, Marocain et Biloulou. C'est suite à la présence d'ADEF dans cette partie là, qui sont en train de commettre vraiment des massacres. C'est donc un nouveau groupe d'ADF dont on ne connaît pas la trajectoire. Nous alertons les autorités militaires pour que les dispositions soient très vite prises afin d'empêcher la progression de ces bandits ADF. Nous sommes submergés par un nombre de déplacés, les villages vidés, les champs vidés, alors que nous sommes à la saison de récolte du riz. Il faut qu'il y ait vraiment une solution très urgente pour traquer et anéantir ces nouveaux groupes d'ADEF.
Entre-temps, le député national Willy Mishiki plaide pour l'incorporation effective de Wazalendo dans les FRDC, la police nationale et les services de renseignement pour qu'ils soient soumis à un commandement unique et harmonisé. Dans un point de presse hier ici à Kinshasa, l'élu de Walika le Nord Kivu, des retours des vacances parlementaires, a estimé que la soumission de Wazalendo à un commandement unique et harmonisé pourrait diminuer les abus de quelques-uns et contribuer au retour de la quiétude dans certaines agglomérations de l'Est. Par ailleurs, les députés Willy Mishiki recommandent au gouvernement de leur assurer le plus vite possible une formation accélérée en droit humanitaire international et en droit de l'homme. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pensons qu'incorporer les ex-Ouazalendo dans les FRDC et la PNC, avoir un commandement unique, on ne va plus parler de VDP, on ne va plus parler de RAD, on va parler des FRDC. Et cela va nous éviter les dérapages que nous connaissons aujourd'hui, puisque les Ouazalendo ne vont pas se soumettre aux instructions des FRDC ou de la PNC, disant qu'ils ont des commandements autonomes, et alors que lorsqu'ils seront dans l'armée, dans la police nationale, dans les services de renseignement, nous pouvons aujourd'hui avoir un commandement unique et éviter non seulement l'insécurité, mais les abus que nous constatons par-ci par-là qui nous fragilisent sur le plan militaire. L'avantage que les Ouazalendo ont, ils sont déjà formés militairement, ils se battent pour conserver la terre de leurs ancêtres et ils ont résisté. Donc, tout ce qu'il faut seulement, c'est leur donner peut-être des cours accélérés, notamment des droits humanitaires internationaux et des droits de l'homme qui doivent être respectés. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, les Ouazalendo ne sont pas payés. Ils se font payer eux-mêmes à travers les jetons qu'ils récoltent. J'ai vu à Wali par exemple, comme à Massissi, les gens payent 500 francs les jetons, d'autres 2000 francs les jetons.
Comme annoncé au sommaire, le gouvernement de la République est pour le contrôle du mouvement migratoire. Cette question était parmi les points évoqués par le président de la République dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi dernier. Pour Félix Tshisekedi, l'objectif visé est de prévenir la criminalité et toute autre activité subversive. D'autres détails avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Président de la République a de manière spécifique parlé du rôle des bourgmestres, des administrateurs des territoires, des chefs des secteurs et chefferies, des chefs des quartiers, des chefs des groupements et des chefs des villages. Cette tâche s'étend même aux chefs de rue pour mieux situer les résidents. Dans les cas de la territoriale et de l'état civil, ces différents animateurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement de la population en coopérant avec les services appropriés du ministère de l'Intérieur et de la justice pour identifier correctement leurs administrés en vue de contribuer à aider les services de la police, des migrations, des défenses et des sécurités à veiller au mouvement migratoire et au changement des résidences. C'est là pour contribuer notamment à la prévention contre la criminalité ou toute autre forme de fléau qui s'installe illégalement sur notre territoire pour des activités de déstabilisation de l'ordre établi. Ainsi que cela se passe dans tout état moderne. Tout changement des résidences ou tact lié à l'état civil doit être signalé et enregistré auprès des autorités locales compétentes. Ces mesures ont un impact certain sur la tranquillité sociale et même sur la santé publique.
Notez que le président de la République a engagé les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, le ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, en collaboration avec les gouverneurs des provinces, à instruire tous les services étatiques et leurs animateurs des entités territoriales décentralisées et celles déconcentrées sur leurs compétences, à veiller scrupuleusement à l'application sans faille de ces mesures, conformément aux prescrits légaux et réglementaires. Le ministre d'État et ministre du Budget sera aussi associé pour traiter les questions liées à leur budget. Un rapport de la mise en application est attendu en déjà 3 mois. On enchaîne avec l'éducation. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC décide de la poursuite de la grève jusqu'à la convocation des travaux de la politique nationale des rémunérations. Les enseignants membres de cette structure ont levé cette option lors de leur assemblée générale extraordinaire tenue hier ici à Kinshasa. Ces professionnels de la CRE affirment avoir constaté le manque de volonté du gouvernement d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles, comme a souligné leur porte-parole Jean Bosco Pounan. Ces propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement dans la concrétisation de la promesse faite à Bibwa lors de la commission paritaire, les enseignants réunis à l'Assemblée générale demandent au gouvernement et au Parlement congolais de mettre en application les articles 36 et 58 de la Constitution pour valoriser la fonction enseignante en République démocratique du Congo. En attendant, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, sur mandat des enseignants réunis en assemblée générale extraordinaire décident de la poursuite de la grève jusqu'à la convocation des travaux sur la politique nationale de rémunération. Invite les parents à garder les enfants à la maison pour leur sécurité jusqu'à la résolution du conflit de travail entre les enseignants et le gouvernement.
Et au Kassai oriental, plus de 800 propriétaires des parcelles comprises entre les avenues Dodoma et Zaïre au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba sont sommés de déguerpir dans un mois pour faciliter la poursuite des travaux de construction de l'aéroport international de Mbujimayi. Cette décision est contenue dans l'arrêté provincial rendu public le jeudi. Un reportage d'Esterne Dalafina rendu par Étienne Lissumbo.
D'après l'arrêté provincial, les maisons concernées sont celles construites sous l'emprise de l'aéroport en expropriation pour cause d'utilité publique. À travers l'arrêté publié jeudi dernier, le gouvernement provincial remet officiellement à la régie des voies aériennes cet espace pour permettre à l'entreprise All One Builder Construction qui a gagné le marché de poursuivre les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba. D'ailleurs, cette entreprise a menacé de plier bagages étant donné que les travaux débutés depuis 2022 ont subi un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération des parcelles concernées par l'expropriation. Avant le déguerpissement, le gouvernement provincial adhère attribuer aux propriétaires des parcelles une concession à Benantumba dans le territoire de Lupatapata. Il demande à cet effet aux services techniques d'urbaniser ces lieux, de prévoir les raccordements en eau, en énergie électrique et d'y implanter un poste de la police pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Signalons qu'une commission est mise en place pour statuer sur certaines réclamations.
Santé. Une dizaine de cas de choléra sont enregistrés depuis le 10 septembre dernier dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemie, dans la province du Tanganyika. TCF, le médecin directeur de l'hôpital des références de Kabimba, déplore la consommation de l'eau non traitée du lac Tanganyika par la population. Une eau qui est impropre à la consommation. La prise en charge des malades au centre de traitement des maladies diarrhéiques à l'hôpital des références de Kabimba s'est fait difficilement, indique le médecin directeur. Docteur Elingoy est joint par Paul Mounanga.
Kabimba, c'est une zone côtière où nous vivons les choléras au quotidien, comme nous sommes au bord du lac Tanganyika. En fait, la population de Kabimba consomme l'eau du lac Tanganyika qui n'est pas traitée, qui est impropre à la consommation. Et c'est à partir du 10 que les cas ont commencé à venir. Depuis la date du 10 jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi 30 cas, dont 20 sont déjà guéris et sont déjà sortis. Actuellement, nous avons 10 cas au CTMD. Depuis la nuit jusqu'à ce matin, nous avons déjà reçu 6 cas. D'autant plus que les cas continuent à venir, nous lançons un cri d'alarme parce que les matériels que nous avons pour les soins médicaux et les médicaments ne s'en suffisent pas. Nous avons réussi 50 litres de sérum Ringer Lactate du bureau central qui sont déjà terminés et c'est une situation qui nous préoccupe parce que même nos infirmiers travaillent sans gants, sans moyens de protection et nous manquons presque de tout à part les sérums oraux que nous avons en quantité suffisante.
Pendant ce temps, en Ituri, la ville de Bounia connaît une expansion rapide, mais l'accès à l'eau potable reste un défi majeur dans plusieurs quartiers. Faute d'un réseau suffisant, de nombreux habitants se tournent vers les forages, une alternative coûteuse pour beaucoup. Martial Papimoukeba nous amène au cœur de cette lutte quotidienne pour chaque goutte d'eau. Voici son reportage.
Nous sommes dans la commune de Mbounia, où l'accès à l'eau potable est un véritable parcours du combattant pour de nombreux ménages. Beaucoup sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de cette denrée rare, comme en témoigne cette femme.
Nous, ici, on n'a pas de l'eau. Pour trouver de l'eau, c'est difficile. On se déplace même 3 kilomètres pour trouver de l'eau. De l'eau à boire, on peut acheter ça 200 fois. L'autre, ça, c'est 4 par bidon. C'est très difficile.
Dans plusieurs quartiers, certains ménages qui ont les moyens ont choisi de construire des forages à des coûts variant entre 1500 et 5000 dollars américains. Ces forages deviennent la principale source d'approvisionnement en eau, comme le témoigne cet habitant de la commune de Nyakasanza.
Comme réseau de forage ici, on avait juste des forêts dans le réseau de sauver les voisins, mais aussi sauver la famille. Vraiment, nous avons l'accès à l'eau potable parce que nous utilisons comme nous voulons. Et maintenant, on est peu stable.
En attendant des solutions durables, les habitants de Bounia s'adaptent à cette solution, espérant des jours meilleurs. Bounia, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, les militants du PSF, Parti Socialiste Sans Frontières, formation politique de feu, L'opposant Yaya Dilo Djerou dénonce le manque de volonté des autorités tchadiennes d'ouvrir une enquête sur l'assassinat de leur leader. Ils exigent par ailleurs et surtout la libération de leurs camarades.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal, comme annoncé, Madame Agnès Debiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu. Elle accompagne les acteurs de la chaîne du livre en Afrique. Son institution a organisé une formation de 5 jours à l'attention des auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires pour renforcer la chaîne du livre et favoriser l'accès aux livres et à la lecture au Sud Kivu. Agnès Debiage s'entretient avec Rachel Kessembango.
Agnès Debiage, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette formation sur la chaîne de livres et la gestion d'une librairie?
L'idée, c'est vraiment à la fois de leur faire prendre conscience de ce qu'est la chaîne du livre, de ce qu'est la librairie et comment peuvent-ils nouer des liens avec la librairie en comprenant mieux son écosystème, mais également de les mettre dans l'action pour générer des projets et des partenariats entre eux.
C'est quoi ce que vous visez en organisant une telle formation, en mettant ces éditeurs, ces libraires, ces auteurs dans cet environnement de la librairie?
Alors l'idée, c'était vraiment de faire découvrir à tout le monde ce qu'est une librairie vue de l'intérieur, de leur faire comprendre ce qu'est l'écosystème de la librairie, aussi bien ses relations avec ses clients, ses relations avec ses fournisseurs, son assortiment, ses stocks, sa relation client. Et là, ça a été extrêmement puissant puisque hier, on a fait une journée de pratique intégralement en librairie et ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de choses qu'ils n'imaginaient pas de la librairie. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans les contextes africains dans lesquels moi je travaille, la librairie est assimilée à un vendeur de livres. Or, la librairie, c'est beaucoup, beaucoup plus, mais quand on ne le sait pas, on s'en rend pas compte.
Les nouvelles technologies, l'Internet, prennent plus d'espace dans nos quotidiens. Quelle place doit occuper la lecture?
Alors, ça c'est une très grande question, parce que on est tous soumis à cette problématique, même quand on est lecteur. Aujourd'hui, on passe tellement de temps connecté que notre cerveau commence à fonctionner en mode zapping. Donc, les gens, et ça c'est scientifiquement prouvé, ont de plus en plus de mal à se concentrer. C'est pour ça notamment qu'il y a un enjeu énorme à sensibiliser les enfants à la lecture. Et comment est-ce que les parents peuvent sensibiliser les enfants à la lecture? C'est en partageant des moments de lecture avec eux, et non pas juste en leur donnant un bouquin. C'est en les emmenant dans les bibliothèques, là où on va avoir des livres disponibles très souvent gratuitement. Il faut qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait de la médiation des parents pour que les enfants aient envie de lire. Mais aujourd'hui, le numérique est effectivement une grosse concurrence aux livres. Maintenant, il y a aussi de plus en plus de gens qui commencent à lire sur leur téléphone ou sur leur tablette. C'est une réalité. C'est aussi de la lecture, hein. Ce qui est important dans cet écosystème avec le numérique, c'est de l'intégrer, et je pense à la librairie du coup, qui doit intégrer le numérique dans son plan d'action, de manière à ne pas rester sur le côté de la route et à continuer à être vendeur de livres, mais en numérique.
Les parents doivent initier les enfants à la lecture, les accompagner, mais n'est-ce pas déjà un problème pour les adultes qui ne lisent pas? Une personne qui a des enfants, mais qui ne lit pas, comment initier cela avec ses enfants?
Effectivement, si la personne ne lit pas, déjà elle aura moins de sensibilité à amener son enfant vers la lecture. Mais par contre, le parent aura sa fibre parentale avec l'envie de donner le maximum à son enfant pour sa réussite, son épanouissement, son éducation. On peut se dire que si le parent a envie de donner toutes les chances, il peut faire, entre guillemets, l'effort de partager un moment de lecture de temps en temps avec son enfant d'un livre qu'il est allé chercher à la bibliothèque, à la librairie ou qu'il avait.
Pendant votre formation avec les libraires, les auteurs, les éditeurs, vous avez aussi évoqué le fait qu'ils doivent être ensemble, apprendre à travailler ensemble. Pourquoi cet accent en particulier?
Pour moi, c'est fondamental. C'est une des choses que j'essaye d'initier dans toutes mes formations. C'est-à-dire que il y a certes la professionnalisation, mais on travaille en lien les uns avec les autres. C'est bien le principe de la chaîne du livre. Or, pour qu'il y ait ces liens, il faut qu'il y ait déjà qu'on se connaisse, qu'il y ait une forme de confiance, même si elle prend du temps à s'instaurer, qu'il y ait une forme de complicité et que du coup on soit beaucoup plus à l'aise pour travailler ensemble. Là on a un groupe de 20 personnes, et ben si moi j'arrive à mon petit niveau à faire en sorte que quand ils quittent cette salle au bout du cinquième jour, ils n'hésitent plus à se téléphoner les uns les autres pour se parler de projets professionnels, ben ça sera déjà une réussite. Moi, je fais en sorte de les inciter à initier des projets pendant le temps de la formation, de manière à ce que le premier pas soit déjà enclenché, en fait.
Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Notre invité était avec Rachel Kiesse-Mbangu. 15h20 à Kinshasa, 16h20 à Bukavu. C'est la fin de ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Pierre Diassinois. Grâce à Mzati était à la présentation. Merci de l'avoir écouté et bonne écoute à présent du magazine des sports avec Kanish Mukongo Fwanikizi et Vanessa Nkengolo.